Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique en ce lundi matin est Ronan Kerdraon. Il est maire de Plérin, président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Et il a fait le déplacement pour être avec nous en direct ce matin. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler de plein de choses. Alors, des choses qui fâchent aussi. Ça fait partie de l'actualité.
C'est le jeu.
J'avais envie de commencer avec quelque chose qui devrait nous réunir. Il s'est passé beaucoup de choses à Saint-Brieuc. On parle de football.
Tout à fait. On a la chance d'avoir un club de Stade Briochin qui a gagné sur le terrain son accession au niveau national. Et c'est vraiment une très grande joie pour le président de l'agglo que je suis et puis pour l'amateur de foot que je suis. C'est vrai que la Coupe de France a eu pour eux un élément, mais vraiment, ça a boosté leur résultat. Et 11 victoires d'affilée, ils ont gagné sur le terrain leur accession. Et ça, je crois qu'on peut les en féliciter. Et je crois que c'est aussi une reconnaissance, non seulement pour Guillaume Alanou et ses joueurs, mais surtout pour l'ensemble des bénévoles qui font tourner ce club et qui méritent bien ce très très beau résultat.
Voilà, avec un club, comme vous dites, hein, qui n'a pas démérité, qui s'est maintenu finalement, qui n'a pas eu de baisse de régime.
C'est assez, c'est assez étonnant parce que habituellement, après ce genre d'épreuve, on a tendance à se relâcher. Et là, au contraire, ça a fédéré toutes les énergies et ça a eu un effet, oui, de boost. Et là, je crois que on ne peut que s'en féliciter. Et puis, on peut aussi peut-être prendre quelques leçons sur la manière dont Guillaume et son équipe ont suggéré cette période-là. Il y a eu l'euphorie, mais une bonne euphorie qui a fédéré les énergies. Donc oui, c'est plein de bonnes leçons à tirer.
Alors justement, à propos de bonnes leçons, on va parler de politique quand même un petit peu, vous êtes là aussi pour ça. J'avais envie de vous poser la question, est-ce que justement, comme en foot, il faut tirer des leçons en politique, et on voit aujourd'hui qu'on est dans un contexte très tendu, très particulier, y compris parfois à l'échelle locale. Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir peut-être, à un moment ou à un autre, se poser la question sur la manière de faire de la politique, dans un contexte aussi budgétaire très tendu, on l'a vu?
Oui, alors la politique de 2025 n'est plus du tout la même que celle de ma première élection, par exemple, hein, de 2008. Beaucoup de choses ont changé. Les réseaux sociaux ont pris énormément de place. D'ailleurs, sans forcément qu'il y ait un contrôle sur ces réseaux, parce qu'on peut tout dire. Et beaucoup considèrent que de publier des choses ou de dire des choses sur les réseaux sociaux, ben, c'est comme si on était dans sa salle ou dans son canapé, et ça peut avoir des conséquences sur un certain nombre de personnes. Et puis en plus, on a des faux profils, parce que le courage pour certains, c'est aussi de se cacher derrière des faux profils pour alimenter parfois la polémique ou de créer des buzz ou des fake news. Donc il faudrait peut-être qu'on légifère là-dessus, ça c'est une chose, mais je crois qu'il y a un député, je crois que c'est Corentin Le Fur, qui a dû déposer une proposition de loi en ce sens. Mais il y a aussi, effectivement, depuis la Covid, je crois qu'on voit que le comportement des gens a totalement changé. On a pu constater, moi j'ai jamais vu autant de lettres anonymes, par exemple, pendant cette période Covid, qui sont venues à la mairie, qu'on m'a adressées, pour dénoncer le voisin. C'est quand même assez interrogatif et stupéfiant sur le comportement des uns et des autres. Donc oui, on va sans doute être obligé de changer notre manière de faire, peut-être être encore davantage dans la proximité, même si on l'est déjà. Mais je crois que pour un élu, et je distingue un peu le rôle de l'élu local, hein, le maire par exemple du parlementaire, il y a forcément la même connexion parfois sur le terrain, mais on voit bien que dans le comportement des uns et des autres, dans les propos qui sont tenus, aujourd'hui les gens se lâchent beaucoup plus, et il y a une forme d'égoïsme qui s'est développée, voire même pas mal de gens sont auto-centrés sur eux-mêmes. Puis on voit aussi apparaître du complotisme. Et ça, c'est assez frappant. Et
y compris là aussi à l'échelle locale, ce qui peut être parfois surprenant. Vous en avez été victime, vous, des réseaux sociaux?
Oui, alors après, comme dirait l'autre, c'est le jeu. Mais oui, les réseaux sociaux, on est attaqué régulièrement. Enfin, moi en particulier, par certains, mais... Voilà, après je réponds, après je donne peut-être aussi le bâton pour me faire battre de temps en temps, mais bon, c'est la règle du jeu, je n'y vois pas de... Voilà, je l'assume pleinement. Après, ce qu'il faut, c'est que ceux qui font un certain nombre de déclarations qui sont parfois très magistrales ou qui nous donnent des leçons, se regardent aussi dans une glace et puis, comme dirait l'autre... quand je me compare aux autres et quand je me regarde, parfois je me rassure.
Roland Cardran, on va rentrer dans le vif du sujet. On parlera tout à l'heure des élections 2026. Vous imaginez déjà la question que je vais vous poser. Vous allez avoir un peu de temps pour y répondre pendant, en tout cas pour y réfléchir pendant cette interview. J'avais envie de vous poser la question, justement, on parlait tout à l'heure du bâton pour vous faire battre. On sait que vous avez l'habitude d'être assez direct et de ne pas avoir la langue de bois. Il y a eu une forme de passe d'armes entre vous et les écologistes ici à Saint-Brieuc sur plusieurs dossiers. Alors on pense au dossier de la rocade, par exemple, dont les coûts ont explosé, il faut bien le dire. Vous avez été un défenseur de cette rocade. Vous avez envie de remettre les choses au point aujourd'hui ?
Oh oui, on remettait les choses au point. Moi, quand j'ai été élu président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, j'ai été élu sur un contrat de gouvernance, sur un pacte de gouvernance et sur un projet de territoire. Dans ce pacte de gouvernance et dans ce contrat de territoire, il y avait l'achèvement de l'axe de contournement sud. Donc, moi, je m'en tiens. Je suis quelqu'un qui suis très respectueux des engagements pris, et l'engagement qui avait été pris, c'était effectivement de terminer cet axe de contournement sud. Parce que il faut quand même rappeler que, et faire un peu d'histoire, le choix de faire d'abord la partie est de l'agglomération avait été un choix qui avait été décidé en collaboration avec tous les élus de l'Ouest de l'époque qui avaient accepté qu'on commence par l'autre partie. Donc le retour des choses aurait été qu'on termine. Ensuite, quand on regarde un peu la situation géographique, on voit bien que la RN12, tous les jours, il y a un problème sur la RN12. Avant, c'était à des horaires pendulaires. Aujourd'hui, c'est à n'importe quel moment de la journée. En plus, on en a besoin de cet axe parce que, tout simplement, il y a aussi l'axe nord-sud. Mmh. Quand on vient de Paimpol pour aller sur l'Oudéac, il y a aussi un besoin. Donc, cet axe et le plan de déplacement urbain qu'on a acté il y a quelques années reposent sur l'achèvement de cet axe. Donc, oui, je pense qu'il faut l'achever. Après, je comprends les difficultés des autres collectivités. On est, nous-mêmes, nous sommes pénalisés par les contraintes financières. Je pense qu'on aurait pu faire un peu différemment et puis peut-être lisser davantage dans le temps. Mais voilà. En tout cas, je suis toujours un fervent partisan de l'achèvement de l'axe de contournement sud.
Voilà. On vous reproche un peu le tout bagnole, hein, pour reprendre une terminologie chère au président de la République. Aujourd'hui, la voiture s'est dépassée ou on en a encore besoin? Voilà. La question est peut-être un peu vaste. Hein.
La voiture s'est dépassée. Non, la voiture s'est pas dépassée. Il faut prendre les mobilités dans leur globalité. C'est-à-dire que on a besoin de la voiture, on a besoin des transports publics et on s'y attelle. On a besoin également, bien évidemment, du vélo. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il faut savoir combiner les différents modes de déplacement, y compris l'avion. Donc, à un moment donné, il faut être, il faut regarder les choses avec sérénité, sans démagogie, dire ce que l'on peut faire et à chaque mode de déplacement correspond une utilité.
Alors j'avais dit que j'allais vous poser des questions qui fâchent tout à l'heure, justement vous me donnez un petit peu le bâton pour vous faire battre, vous me parlez de l'avion, on vous a reproché un vol en avion il y a quelques temps, ça m'amène un petit peu plus largement à évoquer le devenir de l'aéroport de Saint-Brieuc-Trémuson, alors que le département se désengage, que va-t-il devenir cet aéroport? Est-ce qu'il y a d'ailleurs encore besoin d'un aéroport à Saint-Brieuc aujourd'hui?
Alors très clairement, alors... Oui, il y a besoin d'un aéroport à Saint-Brieuc, ça c'est une évidence. Alors nous, l'agglomération, on est dans un syndicat mixte avec le département. On est minoritaire, hein, puisque le département détient 61% des parts et nous 39%. Il a fait savoir effectivement qu'il se retirait de cette gestion au titre de la loi NOTRe, ce qui est la réalité, hein, bien évidemment. Parce que on en prend note et c'est quelque chose qui... Moi, je n'ai pas de critique à faire là-dessus. Après, c'est comment on fait pour que cet aéroport continue à vivre? Il y a des utilisateurs, il y a un besoin sur le plan économique, il y a une nécessité, il y a des acteurs économiques autour, il y a un groupe d'aéronautique qui travaille sur ce secteur-là et qui fait de la maintenance, donc il faut qu'on maintienne cette activité. Maintenant, on ne pourra pas l'agglomération le faire tout seul. Mmh. Et il faudrait quasiment investir, tout compris, il faudrait qu'on arrive à 2,5 millions par an. Non, ce n'est pas possible pour une agglomération comme la nôtre, et certainement pas au détriment d'autres infrastructures comme le port du Légué, par exemple. Aussi, on a quelques difficultés.
On peut imaginer un partenariat public-privé, comme ça se fait dans certaines régions.
Mais je crois que tout est imaginable sur ce terrain-là. On a un peu de temps quand même, puisqu'il y a 3 ans pour le désengagement du département soit effectif et qu'on ait pris la bonne décision. Mais la décision va devoir se prendre dans les mois qui viennent. Mmh. Parce que y a du personnel, il y a une... Alors heureusement, il n'y a pas de dette sociale, mais il y a des acteurs sur le terrain. Et il y a aussi quelques craintes chez eux, et ce qui est compréhensible. Parce qu'on rentre dans une période incertaine.
Alors, période incertaine, là aussi, du côté budgétaire. Et puis, un reproche sur cet aéroport où on dit, voilà, il coûte très cher, mais finalement, il ne sert qu'à l'EAG Guingamp. Pardon, je vais encore me faire des amis. Vous allez pouvoir répondre, hein, me démentir. Est-ce que, justement, là aussi, il faut essayer de faire venir les investisseurs, essayer de faire venir quelques compagnies aériennes, sachant qu'il y a aussi de gros aéroports en Bretagne. On a Brest, Guy Pavin d'un côté, et Rennes-Saint-Jacques de l'autre côté.
Alors, il n'est pas question, en mon sens, hein, que l'aéroport de Trémuson, de Saint-Brieuc-Armor, vienne concurrencer d'autres aéroports bretons. En plus, l'aéroport de Saint-Brieuc n'est pas dans le schéma régional des aéroports. Non, il y a une utilité. Là, par exemple, l'activité maintenance aéronautique est une vraie activité. En plus, ça crée de l'emploi local, puisqu'il travaille également avec des sous-traitants locaux et avec un lycée de Morlaix pour la formation de leur personnel. Donc c'est sans doute sur cette piste-là, c'est le cas de le dire, qu'il faut travailler. Et puis il y a un aérodrome à côté qui nécessite aussi une piste. Donc là, il faut travailler ensemble. Alors, public-privé, oui, automatiquement. Et voire même l'État, peut-être, qui pourrait venir donner un coup de main, puisque ça sert aussi de piste de délestage, le cas échéant. Et puis, il y a l'armée de l'air qui s'entraîne là, l'aéronautique. Enfin, il y a vraiment d'autres activités qu'en avant de Guingamp ou que quelques entrepreneurs qui prennent l'avion. C'est un aéroport qui est nécessaire et que je dirais même qui est un peu vital pour le territoire et qui va au-delà de Saint-Brieuc-Armor agglomération.
On peut imaginer le fret aussi, on parle beaucoup de fret aéroportuaire aujourd'hui.
Pourquoi pas, j'ai pas forcément d'idée préconçu là-dessus, mais en tout cas toutes les solutions doivent être envisagées, toutes les hypothèses doivent être envisagées.
Alors on parle de mobilité, tenez, encore un sujet clivant comme l'on dit dans les gazettes, le devenir de la ligne de chemin de fer entre Saint-Brieuc, Loudéa, Pontivy et au-delà jusqu'à Auray, seule ligne bretonne transversale encore existante, à savoir que voilà, les rails existent toujours, mais il n'y a plus de train sur cette ligne depuis pas mal d'années déjà. La ligne bien vieillie, s'abîme, est-ce qu'il faut réinvestir pour remettre des trains, pour remettre de la mobilité sur cette ligne, ou est-ce qu'il faut céder à l'idée de la voie verte? C'est l'idée de quelques élus.
Oui, tout à fait. J'ai été sollicité par plusieurs élus, plusieurs maires du sud de notre agglomération. Ce qu'on va faire, ce que je préconiserai, c'est qu'on fasse une étude globale sur cette ligne. C'est-à-dire qu'on n'exclut aucune piste, aucune hypothèse, qu'on regarde effectivement, bien évidemment, la voie verte, qu'on regarde également le ferroviaire, parce qu'il y a aussi quelque chose à étudier, et qu'on le fasse en lien avec la SNCF. Donc oui, il y a une volonté, il y a une demande d'un certain nombre d'élus qu'il faut entendre, et pour cela, bah, il faut faire une étude globale sur les utilisations de cette voie ferrée. Il y a, pour moi, en tout cas, il n'y a pas de problème par rapport à cela.
Alors, il y a une demande de retour du ferroviaire, on le voit. Alors, beaucoup de jeunes qui n'utilisent pas la voiture, par exemple, qui, pour leur déplacement, vont prendre le train et parfois embarquer le vélo avec. Il faut tenir compte de ces demandes-là, de ces desiderata des citoyens, finalement, et des plus jeunes d'entre eux.
Il faut tenir compte de toutes les demandes. Il faut surtout regarder quels sont les usages, quels sont également quel est le volume de ces usages. Il faut combiner le ferroviaire, il faut combiner aussi le transport public, hein, les bus notamment. Là, nous travaillons actuellement sur une réorganisation du réseau des transports urbains briochins avec notre SPLB d'Armor Transport. Il y a des besoins qui se font sentir dans les centralités, parce que maintenant, on a beaucoup de centralités. Quand on est à Quintin, c'est une centralité. Quand on est à Plaintel-Pleuc, il y a une centralité. Quand on est à Saint-Quay, il y a une centralité. Donc, il faut aussi qu'on réfléchisse comment amener du transport public sur ces centralités-là. Il faut aller au-delà de la simple couronne briochine pour apporter également du transport public collectif et peut-être lutter justement contre le tout voiture.
Alors, il y a aussi, vous en avez dit un tout petit mot tout à l'heure, j'avais envie de vous entendre aussi sur le port du Légué à Saint-Brieuc. Le port du Légué, là aussi, avec quelques difficultés dans ce port, difficultés de développement particulièrement.
Alors, c'est un port qui, d'abord, là aussi, le département a fait savoir toujours pour le même motif de la loi NOTRe. C'est la déclinaison de cette loi. Mais là, contrairement sur l'aéroport, on est en phase avec la région. Et la région a bien fait savoir qu'elle continue à soutenir l'activité du port du Léguey. On a Loïc Chenet-Girard à charger son vice-président Michael Kernes de réunir tous les acteurs politiques autour de la table, et c'est ainsi qu'il a réuni mes collègues de Lamballe Terre et Mer, de La Farmore et de Guingamp pour échanger sur le rayonnement de ce port et sur, à un moment donné, comment on va faire ensemble pour que ce port du Léguey continue et progresse dans son activité. Aujourd'hui, les acteurs économiques du port, ben, jusqu'à Quessois, il y en a. Donc oui, c'est un port territorial qui n'est pas non plus que simplement briochin, mais qui connaît une belle activité, notamment en matière de fret de bois, par exemple. Mm-hmm. Non, c'est une activité qui fonctionne très bien aujourd'hui, le port du Léguey, qui demande qu'à fonctionner encore mieux.
Alors on va parler aussi de budget. Je vous avais dit ce matin, il y a quelques questions qui fâchent, je suis désolé, ça vous tombe dessus un lundi matin.
C'est pas grave, il y a eu la victoire du Stade Briochin.
Voilà, je profite que vous soyez de bonne humeur. On a aujourd'hui des restrictions budgétaires au niveau de l'État, on le voit, le Premier ministre parle même d'un référendum pour faire adhérer les Français, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais il y a une réalité, c'est la baisse des crédits, c'est des économies, ce sont des coupes budgétaires. Comment ça se gère au niveau d'une aglo comme Saint-Brieuc aglo?
Comment ça se gère? Tout simplement en regardant compétence par compétence. Alors, on a des compétences obligatoires, on a des compétences facultatives, volontaires, on a fait des choix volontaristes également. Mais dans les compétences obligatoires, on a aussi des gradations à avoir. Donc c'est ce qu'on a regardé. On a regardé tout cela. Il a fallu qu'on trouve quelques économies. Alors ce qu'on nous avait annoncé était très sévère, ça a été un peu moins douloureux, mais on nous annonce pour 2026 le bis repetita. Donc le travail qui a été fait dans les services, et je remercie les services d'avoir fait ce travail, on a regardé comment est-ce qu'on pouvait faire mieux, faire toujours un peu plus. On a lissé dans le temps également un certain nombre de projets. On a, au lieu d'investir sur 3, 4 ans ou 5 ans, ben on recule, on lisse. Il y a des choix qui sont faits. On n'a pas sacrifié non plus d'autres politiques, style la santé, sur lesquelles on a beaucoup, beaucoup œuvré. Donc, on essaye de réfléchir à comment utiliser nos moyens financiers. Par contre, on arrive au bout du bout de quelque chose. Mmh. Il va falloir vraiment avoir une vraie loi de décentralisation qui dise quelles collectivités, quelles compétences sont données à ces collectivités et surtout quel levier fiscal. Et si on ne fait pas ça, tous les ans, on sera dans cette course à l'échalote où on sera toujours en train d'essayer de faire des coupes budgétaires. Et ça, c'est pas normal. Et puis, ça, pour les élus que nous sommes, ça manque de visibilité.
Alors, la décentralisation, on en parle beaucoup. On entend aussi parler de groupements de collectivités. Certains veulent voir disparaître la région, d'autres le département. Voilà. On peut imaginer ça un jour?
Je ne sais pas si on peut l'imaginer, mais en tout cas, moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut supprimer un tel ou un tel. Ce qu'il faut faire, c'est clarifier les compétences des uns et des autres, donner les moyens financiers de ces compétences-là. Si on ne le fait pas, eh bien, on n'y arrivera pas. Et on sera toujours en train de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Là, aujourd'hui, je pense que ce que les élus attendent, c'est une vraie loi de décentralisation qui prenne en compte les besoins des territoires, le droit à l'expérimentation. Mmh. Loïc Chenet-Girard en parle souvent, mais il faut clarifier les choses et surtout donner des moyens financiers de nos politiques.
Avec certaines régions, vous faisiez allusion à la région Bretagne, on va prendre le cas de la région Pays de la Loire avec Christelle Morançais qui a opéré des coupes budgétaires très rudes, très drastiques.
Notamment sur la culture.
Sur la culture notamment. Est-ce qu'on peut imaginer demain être acculé, se retrouver un peu au pied du mur, être obligé de faire ça? Est-ce que pour l'élu que vous êtes, ce serait quelque chose de cruel, d'impossible à faire
Alors, moi, je pense que la culture, c'est un domaine sur lequel il faut rien sacrifier. Parce que la culture, c'est aussi la base de la démocratie et du vivre ensemble. Donc, la culture, non. Et d'ailleurs, on n'a pas, nous, fait de coupe sombre sur la culture. Non, il faut, sans doute, c'est ce que je disais tout à l'heure, mieux planifier dans le temps, mieux lisser dans le temps les infrastructures et les projets que l'on a. Mais il faut pas sacrifier la culture, et comme il faut pas sacrifier non plus la santé. Comme, je veux dire, ça, c'est vraiment une réflexion globale, et c'est là où le travail que nous faisons à Saint-Brieuc-Armor Agglomération dans le cadre de la gouvernance partagée nous permet de faire passer, même si à un an des renouvellements municipaux, il y a toujours un petit regain de tension dans ces cas-là, mais ça, on arrive à faire passer nos projets de cette manière-là.
avec le Premier ministre, hein, je le disais tout à l'heure, qui imagine un référendum autour du budget. Puis alors, bah, s'il y a le référendum, si les Français disent non, on veut pas faire de sacrifice, comment on fait ?
Je crois qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a le temps ? Est-ce que c'est l'essentiel de faire un référendum ? Je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. On est à un an des municipales. On a un gouvernement dont la stabilité est quand même assez incertaine. Donc, je suis pas sûr qu'un référendum soit la bonne solution. Alors après, s'il y a un référendum et qu'il s'engage peut-être à démissionner s'il a pas la bonne réponse attendue, non. Je crois que aujourd'hui, un référendum, pour moi, c'est à la fois un gadget qui est agité. Je pense qu'il vaut mieux travailler sur ce que je disais tout à l'heure, une bonne loi de décentralisation, plutôt que de s'amuser avec un référendum qui va en plus être très coûteux pour les finances des collectivités et de l'État.
Avec un paysage politique très particulier aujourd'hui en France, très fracturé avec LFI qui tente à prendre beaucoup d'espace à gauche, avec le Rassemblement National qui monte et peut-être Jordan Bardella présidentiable, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, j'allais presque dire la tournure politique aujourd'hui en France ?
Bah écoutez, on a une forme de radicalisation des extrêmes. Et ça, moi, ça m'inquiète. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à chaque fois très, très publiquement et de manière très transparente par rapport à mes choix. Je pense que notre pays a besoin, de stabilité. Et pour qu'il y ait de la stabilité, il faut pas qu'il y ait d'extrémisme qui se développe ou de radicalisation qui se développe.
C'est pas bon pour conserver une stabilité.
C'est bon ni pour le contexte politique, ce n'est pas bon non plus pour le contexte économique. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut revenir à une forme de sérénité, il faut qu'on retrouve une politique apaisée. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on voit bien, avant on avait les boutiques éphémères, maintenant on a les ministres éphémères, les gouvernements éphémères. Il va peut-être falloir redonner un peu de lisibilité, de visibilité, de stabilité à tout cela.
Voilà, la mode n'est pas forcément bonne en politique. On voit certains pays, il y avait un vote en Roumanie ce week-end, avec l'extrême droite qui est très puissante et qui fait des scores assez importants. On voit une montée du populisme ici en Europe, mais aussi aux États-Unis avec Donald Trump, je ne vous apprendrai rien. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui peut être inquiétant, même à l'échelle locale ?
Oui, tout à fait. On voit bien qu'aujourd'hui, les idées populistes ruissellent dans la société française, y compris au niveau local. Hein. Et puis, il y a aussi le phénomène, je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, mais les chaînes d'information ont continué. On ne va pas citer de chaînes.
La parole est libre, vous pouvez. Hein.
Et le fait de rabâcher tout le temps telle et telle information et d'être dans le buzz, parce que très souvent c'est ça, ça crée aussi des inquiétudes dans nos territoires. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète depuis bien longtemps. Déjà, c'est parce que ça, c'était avant Covid. Depuis la période Covid, on sent cette peur qui s'installe aussi. C'est aussi à nous, élus politiques, d'essayer de rassurer. Et quand on discute, quand on prend le temps de discuter avec les gens dans la rue, sur le marché de Plérin, par exemple, eh bien, les gens comprennent. Mais ça demande de la pédagogie. Mais il faut sortir de ce climat d'inquiétude, de ce climat aussi de frustration et puis de stigmatisation. Mmh. On a affaire à beaucoup de moralisateurs aussi. À un moment donné, c'est très bien d'être moralisateur. Mais à un moment donné, on est aussi, nous, acteurs d'un certain nombre de choses. C'est à nous aussi d'agir. Voilà.
Ça m'amène aux élections. Hein. Vous avez un petit peu évoqué du bout des lèvres, on va rentrer dans le vif du sujet, les prochaines élections 2026. Elles vont précéder l'élection présidentielle en 2027 et les élections régionales en 2028. Voilà, on va y rentrer dans une phase d'élection. J'ai envie de vous poser la question directe. Vous allez vous représenter à Plérin dans
Oui, tout à fait. Je l'ai annoncé au vœu en janvier. Effectivement, je serai un nouveau candidat au municipal à Plérin avec une liste renouvelée, bien évidemment, qui correspondent à la société plérinaise d'aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr, parce qu'on a lancé des projets, et ces projets-là sont pour moi des projets importants qui seront des marqueurs de la vie plérinaise. On est en train de construire un centre municipal de santé, un espace des arts, on va rénover une école, l'école Arel de la Noé, et on va construire un centre municipal technique. Donc oui, on a des projets. Donc on se représente pour porter ces projets et pour faire que ces projets se concrétisent. Et puis être maire, être élu d'une commune, c'est une fonction passionnante parce qu'on est sur le concret avec nos concitoyens. Et ça, quand on prouve à travers nos actions que l'impôt n'est pas un gros mot et qu'on rend en service public au public, eh bien, je crois que c'est une certaine fierté qu'on a pour d'agir pour la population.
Et là aussi, on est sur du long terme, finalement. Hein.
Oui, tout à fait. Quand j'ai été élu en 2008, pour sortir un projet immobilier, par exemple, il fallait 4 à 5 ans. Mmh. Aujourd'hui, un projet immobilier, entre tous les recours, les concertations, etc., c'est souvent 8 à 10 ans. Donc, vous voyez, c'est on s'inscrit dans la durée. Là, aujourd'hui, on a un projet avec Terre d'Armor Habitat d'opérations d'aménagement urbain sur la cité des Jardins à Plérin. C'est un vrai projet politique et urbanistique. Donc, on est très fiers de porter tout ça.
Alors, aujourd'hui, il y a des maires qui jettent l'éponge, qui sont fatigués, qui sont épuisés, voilà, qui vivent pas très bien leur quotidien de maire. Vous les comprenez, ces maires ?
Oui, bien sûr. Alors, on en échange souvent à l'association départementale des maires. C'est vrai que il faut avoir la couenne solide. Avant, on disait, il y avait quelqu'un qui avait dit les maires sont à portée de baffe. Aujourd'hui, ils ne sont plus à portée de baffe. Ils sont à portée de gestes, parfois de forcenés, d'insensés, ou de qui expriment une frustration. On a vu notre collègue dont les freins de la voiture ont été sabotés. Un autre a vu quelqu'un pénétrer chez lui. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Donc je peux comprendre que certains, ben voilà, ont peur de retourner ou ont peur de s'engager. Ça, c'est vraiment compréhensible. Maintenant, on est aussi à la marche, faut pas en faire l'alpha et l'oméga du fait d'être candidat ou pas. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est que être maire, c'est passionnant parce qu'on agit pour le bien de ses concitoyens. Je pense que c'est plutôt de ce côté-là. Alors effectivement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec d'autres médias, on peut être vilipendé, etc. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On n'y changera pas. Et puis là, je sais que la justice essaye de faire ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Et voilà. Mais moi, je suis très heureux d'être maire.
Alors on parle aussi de sécurité aujourd'hui beaucoup, hein. C'est aussi une des préoccupations des maires, y compris dans les petites communes. On voit malheureusement le trafic de stupéfiants qui se développe, alors que ce soit dans des villes importantes comme Rennes, Brest, on en entend beaucoup parler dans l'actualité, mais aussi des villes comme Saint-Brieuc, pour prendre plus proche de chez nous. Là aussi les maires ont un rôle d'alerte, ont un rôle, j'allais dire, vraiment réel dans la sécurité.
Le maire est celui qui connaît le mieux sa commune. Donc effectivement, il a un rôle d'alerte, il a un rôle aussi de concertation, d'échange avec l'ensemble des forces, que ce soit de police nationale, de police municipale, de justice. Et c'est vrai qu'au sein des conseils de prévention de la délinquance, les maires sont présents. Mais c'est une politique de longue haleine. On ne résoudra pas ces problèmes-là en claquant des doigts. Par contre, c'est une politique sur le long terme. Alors il y a ce qu'on peut faire à court terme, à moyen terme, mais surtout à long terme. Donc c'est aussi cela, la politique. Malheureusement, c'est aussi, on n'a pas des résultats tout de suite. Le temps politique, le temps du citoyen et le temps administratif ne sont pas tout à fait les mêmes.
Alors, le temps politique aujourd'hui, c'est une forme d'angoisse aussi des citoyens français. Vous parliez tout à l'heure de la montée des extrêmes. Il y a aussi l'avenir social aujourd'hui. Ça préoccupe aussi le maire que vous êtes, le président d'Adlo que vous êtes ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on voit bien que le contexte social est peut-être très prégnant dans nos collectivités. Nos CCAS sont là pour accompagner. On a, nous, au niveau de l'agglomération, on a le CIAS, le Centre intercommunal d'action sociale, qui se développe auprès des plus fragiles, et parfois même nos propres agents sont parfois en situation de fragilité. Donc c'est pour ça qu'on a fait un certain nombre d'efforts budgétaires en direction du CIAS, en accordant notamment aux agents 90 véhicules qui ont été mis en service. Donc oui, ça nous interpelle et on essaye d'agir en fonction de cela. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les coupes budgétaires, il ne faut pas les faire n'importe comment, il faut surtout lisser dans le temps.
Justement, un tout dernier mot, il nous reste une poignée de secondes, vous avez réussi à trouver un assureur pour vos véhicules, parce que c'est aussi une inquiétude des maires aujourd'hui, de trouver un assureur.
Tout à fait, l'un des grands problèmes des collectivités, c'est de s'assurer. Alors oui, on a trouvé, on était avec 1500 autres collectivités concernées, alors on a trouvé un assureur pour l'année qui vient, mais effectivement on attend une grande loi sur l'assurance des collectivités, parce qu'une collectivité, c'est pas un assuré comme un autre.
Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Ronan Cardraon, maire de Plérin, président de Saint-Brieuc, Armor Agglomération, et vous êtes aussi président de l'AMF des Côtes d'Armor, de l'Association des maires de France des Côtes d'Armor. Voilà, je voulais le préciser. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée.
Pareil.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.